Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h42, suite des matins. Réchauffement climatique, assiste-t-on à un réveil des consciences? Inspiré par l'appel d'une adolescente suédoise de 15 ans, des dizaines de milliers de jeunes collégiens, lycéens, aujourd'hui, ils vont s'abstenir d'aller en cours, ils vont les sécher, ils vont aller manifester en France, partout dans le monde, pour attirer l'attention des dirigeants politiques sur la sauvegarde de l'environnement. Ils tenteront de leur rappeler l'obligation vitale qu'ils ont à respecter leurs engagements, à lutter contre le réchauffement climatique, alors que les émissions de gaz polluants sont reparties à la hausse depuis la signature des accords de Paris en 2015, et qu'une forme de fatalisme semble s'être emparée des opinions publiques depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de son administration climato-sceptique. Alors après l'échec des associatifs, des militants, des experts, la jeunesse parviendra-t-elle à réveiller nos consciences endormies? Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Valérie Masson-Delmotte. Bonjour.
Bonjour.
Valérie Masson-Delmotte, vous êtes coprésidente du GIEC, directrice de recherche au CEA, membre du Haut Conseil pour le Climat, et je sais que vous êtes modeste, mais le magazine Nature vous a cité comme l'une des 10 scientifiques de l'année 2018. Vous êtes paléoclimatologue, et peut-être serait-il intéressant que vous nous disiez ce qu'est un paléoclimatologue.
Alors moi j'ai une formation de physicienne, et donc j'ai travaillé sur la compréhension, la caractérisation des variations climatiques passées. Et on peut les voir comme autant d'expériences naturelles sur le climat de la Terre. Quand l'orbite de la Terre autour du Soleil change, ça répartit autrement l'énergie solaire, c'est le moteur des glaciations, ça déclenche un ensemble de mécanismes amplificateurs, par exemple les variations de l'englacement, les variations de la composition
de l'englacement.
L'extension des calottes de glace. Ça module par exemple le cycle naturel du carbone, hein, les teneurs en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui font partie des amplificateurs naturels de ces variations climatiques passées. Et ces grandes variations passées, on les utilise aussi pour tester les modèles de climat qu'on développe aujourd'hui à partir de la compréhension physique, qui nous aide à comprendre comment le climat fonctionne aujourd'hui, comment il a varié dans le passé, pourquoi, et qui sont les outils dont on dispose pour explorer les futurs possibles.
Et alors aujourd'hui, qu'observe-t-on? Comment l'observe-t-on? Comment vous travaillez, Valérie Masson-Delmotte?
Sur l'étude des climats passés, j'ai travaillé principalement moi-même à partir de l'analyse des carottes de glace au Groenland, en Antarctique ou au Tibet. Et puis en France, où on n'a pas la possibilité d'utiliser les glaciers parce qu'il fait trop chaud chez nous. Il y a de l'eau qui percole, qui s'infiltre dans les glaciers des Alpes. Et donc la mémoire du climat n'y est pas forcément préservée d'une manière fiable.
Même si on creuse très profondément.
Tout à fait. Et donc du coup, j'ai travaillé sur les anneaux de croissance des arbres avec le même genre de marqueur qu'on utilise dans les carottes de glace et qui, année après année, enregistre les conditions météorologiques pendant la saison de croissance des arbres. Et on peut le faire sur des arbres vivants, des poutres de bâtiments historiques et remonter sur des centaines d'années.
Comment fait-on? C'est-à-dire qu'on fait donc une section d'un arbre, d'une poutre, comme vous venez de l'expliquer.
Un carottage, en fait. Donc on va extraire un cylindre.
Et là, qu'est-ce qu'on trouve?
Eh bien, on va en fait pouvoir identifier des anneaux de croissance et donc reconnaître année après année les différentes strates de formation donc du bois, des arbres. Et on peut analyser donc l'épaisseur, la densité de ce bois. Nous, on utilise des marqueurs plus subtils. On va travailler sur la molécule de cellulose, c'est un des composants du bois. Et on va analyser en fait certaines formes de ces molécules de cellulose qui contiennent en fait différentes formes des atomes d'oxygène ou de carbone. Et ça va être des marqueurs des variations passées, en particulier de température ou de sécheresse.
Quel est le lien entre justement l'évolution des températures et les atomes d'oxygène ou de carbone?
Alors, il faut imaginer qu'on suit l'eau. Quand la molécule d'eau s'évapore à la surface de l'océan, dans la molécule d'eau, il y a des formes naturelles. Certaines sont plus lourdes que d'autres, elles ont un peu plus de neutrons, soit dans l'hydrogène, soit dans l'oxygène. Et donc, quand on évapore, c'est plus facile d'évaporer ce qui est léger. Et ensuite, lorsque la vapeur d'eau est transportée vers nos latitudes ou vers les pôles, elle subit une forme de distillation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il pleut ou qu'il neige, on va enlever un peu plus de molécules lourdes que de molécules légères. Et donc, au final, les conditions climatiques affectent la proportion de molécules lourdes et légères de l'eau. C'est un marqueur qu'on utilise pour connaître les variations passées de température dans les régions polaires. Et c'est aussi, indirectement, cette signature de l'eau se retrouve dans la signature de la cellulose, fabriquée à partir de l'eau que l'arbre soit va puiser avec ses racines dans le sol, soit va échanger au niveau de ses feuilles avec l'air.
Et alors, les carottes glaciaires, pour qu'on se les représente, Valérie Masson-Delmotte, vous qui êtes paléoclimatologue, donc vous allez principalement au Groenland pour les trouver. Ça sert à rien de les chercher au sommet du Mont Blanc, par exemple.
On le fait pour connaître l'histoire de la pollution européenne, mais en ce qui concerne l'histoire du climat, les enregistrements les plus fiables et les plus anciens, on les trouve au Groenland ou en Antarctique. Donc au Groenland, on remonte aujourd'hui jusqu'à environ 130 000 ans vers le passé, sur une épaisseur d'un peu plus de 3 km au centre du Groenland.
Donc on fait donc...
On va extraire des cylindres...
3 km
depuis la surface, par passes successives, où on va pénétrer de plus en plus en profondeur. Donc ce sont des travaux...
L'épaisseur de glace, elle est de quel ordre ?
De l'ordre de 3 km.
Ah, donc on va vraiment jusqu'au bout
Jusqu'au plus profond, jusqu'au socle rocheux. Et plus on pénètre en profondeur, plus on va accéder à des échantillons anciens. Ce qui est intéressant en Groenland, c'est qu'on a l'histoire très détaillée des derniers millénaires, de la dernière période glaciaire, et puis on peut remonter à la période précédente. C'est une période qui nous intéresse beaucoup parce que, à cause de l'orbite de la Terre, elle était un peu plus chaude au niveau des pôles qu'aujourd'hui, pas tellement en moyenne planétaire. Et c'est une période où le niveau marin était plus élevé qu'aujourd'hui, de l'ordre de 6 à 10 mètres. Et donc c'est la dernière fois où les calottes du Groenland et de l'Antarctique ont vraiment perdu de la masse. Ont contribué de manière importante à la montée du niveau des mers.
De quel ordre ?
De l'ordre de 6 à 10 mètres de plus qu'aujourd'hui, pour un réchauffement pendant plusieurs milliers d'années de l'ordre de 5 degrés de plus dans les régions polaires qu'aujourd'hui. C'est ce à quoi on s'attend dans quelques dizaines d'années, si on n'agit pas sur nos rejets de gaz à effet de serre en termes de réchauffement polaire.
6 à 8 mètres de montée des océans ?
Je parlais de l'ampleur du réchauffement. Ensuite, la réaction des calottes polaires, elle n'est pas forcément la même quand on change l'orbite de la Terre pour les périodes chaudes passées, ou quand on rajoute des gaz à effet de serre et elle met des milliers d'années à se développer.
Pourquoi ? Parce aujourd'hui, que les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets en matière de climat, Valérie Masson.
La réaction des calottes de glace, elle est lente. Donc au départ, on va avoir une fonte sur les parties côtières, là où il fait le plus doux. On va avoir de l'eau qui s'infiltre dans des crevasses, hein, qui va modifier l'écoulement de la glace. Si on a un réchauffement des eaux de mer en dessous des parties flottantes de ces calottes de glace, on va les amincir, on va perdre leur effet d'arc voûtant, ça va conduire à un écoulement plus rapide de ces parties flottantes. La réponse des calottes de glace à une modification du climat, elle se fait sur des milliers d'années. Et je veux préciser qu'aujourd'hui, le niveau des mers a monté de 20 cm au XXe siècle, il monte d'un peu plus de 3 mm chaque année. Il y a eu une accélération, cette accélération elle est en particulier due au fait que le Groenland perd de la masse, de plus en plus, et que l'Antarctique perd également de la masse. Donc aujourd'hui, dans une situation où on a une instabilité des calottes de glace, on a des observations courtes, et donc les climats passés forment vraiment un socle de connaissances important qui nous permettent de comprendre quelles sont les conditions de déstabilisation de ces calottes de glace et combien de temps elles mettent à réagir.
Justement, l'inertie des calottes glaciaires, est-ce quelque chose de compliqué à comprendre ? Alors, pour moi, c'est compliqué à comprendre. Pour vous, j'imagine, ça l'est moins. Mais y a-t-il quelque chose de compliqué à comprendre dans, finalement, ce contraste entre, d'un côté, une situation de réchauffement claire, puisqu'on évoque, effectivement, des températures supérieures à zéro dans ces régions, beaucoup plus que par le passé, et le fait que ces calottes glaciaires perdurent même si elles fondent.
Alors, il y a le réchauffement qui compte, mais pas uniquement. C'est-à-dire que certaines parties de ces calottes de glace, il faut imaginer, la glace se déforme très lentement. Donc elle est au départ sur un socle rocheux sur un continent, puis elle s'écoule et il y a une partie qui s'appuie sur l'eau de mer, qu'on appelle des plateformes de glace flottantes. Et c'est ce qui largue des icebergs. Quand les eaux de mer se réchauffent également, c'est une des conséquences majeures du réchauffement planétaire actuel, du fait de notre influence. Des eaux de mer un peu plus chaudes vont entraîner une fonte par en dessous. Et ces langues de glace flottantes vont donc s'amincir, larguer des icebergs. Et si elles s'amincissent, elles vont perdre leur effet d'arc boutant et donc vont permettre un écoulement plus rapide de la grosse masse de glace qu'elles tiennent et qui est sur le continent. Cette question de la réponse des calottes de glace, c'est une question majeure par rapport aux conséquences à très long terme du changement climatique, de même que le réchauffement des océans en surface et en profondeur. Par rapport à la perturbation qu'on a déjà mise dans l'atmosphère, qui a causé un degré de réchauffement à la surface, on a des marges de manœuvre pour contenir le réchauffement futur, à condition d'aller vers le net zéro émission de dioxyde de carbone et de réduire les émissions des autres gaz à effet de serre. La montée du niveau des mers, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, il est inéluctable. C'est-à-dire... Les glaciers vont continuer à fondre, ils ne sont pas à l'équilibre avec les températures d'aujourd'hui. Les océans vont continuer à se réchauffer en profondeur et se dilater. Et puis la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on va enclencher en termes d'écoulement des calottes de glace?
Ces températures, elles sont de quel ordre, justement, Valérie Masson-Delbotte? Parce que là aussi, alors c'est une question simple, la réponse, elle est extrêmement compliquée. Là aussi, on a des problèmes de mesure, des problèmes de moyenne. Bref, comment vous pouvez traduire le réchauffement climatique en étant, en quelque sorte, compréhensible pour le Quidam?
C'est très simple, en fait. On a des stations météorologiques, on en a depuis 150 ans, on a des mesures océanographiques à la surface des océans. L'ensemble de ces données sont traitées, corrigées, parce que les instruments ont changé au cours du temps, donc calibrées. On a en fait des reconstitutions de température à la surface de la Terre, et on observe sans aucun doute un réchauffement qui est de l'ordre de 1 degré depuis la fin du 19e siècle. On a également tout un travail pour comprendre les causes de ce réchauffement, et dans l'état de nos connaissances actuelles, l'intégralité de ce réchauffement est due au rejet humain de gaz à effet de serre à 20% près.
Expliquez-nous pourquoi, pour une paléoclimatologue, ce 1 degré qui semble être évidemment très très peu de choses pour là aussi ceux qui ne sont pas des spécialistes, Valérie Masson-Delmotte, et une augmentation de la température qui risque d'avoir des conséquences funestes, qui a même selon vous des conséquences funestes.
Alors le terme funeste, moi je ne l'utilise pas. Donc on voit déjà les effets du réchauffement climatique, en particulier à travers des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. Dans certaines régions, une intensification des pluies torrentielles, la montée du niveau des mers, le recul de la banquise arctique, le recul généralisé des glaciers. Donc le réchauffement climatique, on le voit déjà, il affecte les écosystèmes, il affecte aussi les activités humaines dans toutes les régions du monde. Donc le 1 degré de réchauffement, ça nous fait déjà sortir de la gamme des variations naturelles du climat depuis environ 1500 ans. Il faut bien voir qu'entre une période glaciaire et une période chaude, au niveau de l'ensemble de la Terre, c'est seulement 5 degrés d'écart. Et les changements passés les plus rapides, lors d'une déglaciation par exemple, ils se sont faits au rythme d'environ 1 degré par 1000 ans. Donc la situation actuelle, elle est inédite. Elle est inédite par rapport à sa cause. Donc nous, en fait, en brûlant des énergies fossiles par la déforestation, par nos activités agricoles intensives, nous bouleversons la composition atmosphérique, nous ajoutons des gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur. C'est de la chaleur qui part pas sous forme de rayonnement vers l'espace. La composition atmosphérique, aujourd'hui, on est à 40% de plus que le niveau des périodes 12 précédentes pour le dioxyde de carbone, 2,5 fois la teneur en méthane. Donc c'est une perturbation sans précédent. Mais on revient à une composition que la Terre a connue dans son histoire. Par exemple, la dernière fois qu'il y a eu autant de dioxyde de carbone qu'aujourd'hui dans l'atmosphère, c'est une époque qu'on appelle le Pliocène, il y a environ 3 millions d'années. Pendant les phases 12 du Pliocène, sur plusieurs milliers d'années, à l'équilibre avec une telle teneur en dioxyde de carbone, le climat était 2 à 4 degrés plus chaud que le niveau pré-industriel et le niveau des mers de l'ordre de 10 à 20 mètres plus élevé qu'aujourd'hui.
Pourquoi vous dites pas funeste ?
Je dis pas funeste parce que ça porte un jugement de valeur. Donc sur le réchauffement climatique, en fait, ça va jouer sur des aléas. Ça va nous exposer à des risques parce que ces aléas se combinent à des vulnérabilités, à des expositions à ces risques. Mais nous avons des moyens d'action. C'est-à-dire que nous pouvons renforcer la résilience de nos sociétés. Nous pouvons avoir des stratégies d'adaptation pour faire face à un climat qui change. Nous pouvons également agir pour assurer le développement et le bien-être de tous en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Nous avons des solutions qui sont en main. L'enjeu aujourd'hui, c'est de les déployer. J'ai beaucoup de mal en fait avec un discours qui est en fait un discours de passivité finalement par rapport au réchauffement climatique. Le dernier rapport que nous avons rendu pour le GIEC en octobre dernier sur 1,5 degré de réchauffement, je l'ai amené en fait, il fait 26 pages, je vous encourage tous à le lire. Et en plus, il y a un collectif de citoyens français qui l'a traduit.
Je vois vaguement le chiffre 1,5 degré, il n'est pas question d'un degré donc.
Donc nous sommes aujourd'hui à 1 degré de réchauffement. Ce rapport nous a été demandé par les gouvernements au moment de la COP21 pour explorer ce qu'impliquerait 1,5 degré de plus et la différence entre un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud. Donc on a justement examiné quels seront les risques. On voit que même pour 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques qui seront potentiellement graves pour un certain nombre de régions, pour un certain nombre d'écosystèmes. Et qu'à mesure du réchauffement, chaque demi-degré compte. Et c'est pour ça en fait que moi je m'adresse à la jeunesse aujourd'hui, dans cette journée de mobilisation mondiale. Un monde 1,5 degré plus chaud, on va y arriver entre 2030 et 2050. Si on n'agit pas sur nos rejets de gaz à effet de serre...
2030 et 2050.
C'est leur monde. Si on n'agit pas sur nos rejets de gaz à effet de serre, on va dépasser 1,5 degré. On aura des pertes irréversibles d'écosystèmes. On aura des crises pour les sociétés humaines les plus fragiles, si on ne les aide pas à faire face aux conséquences. Et à ce moment-là, si on veut contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce ne sera plus possible. La fenêtre sera fermée. La fenêtre pour contenir le réchauffement à 1,5 degré, elle est maintenant.
C'est maintenant. J'ai cru comprendre que vos enfants allaient manifester, Valérie Masson-Delmotte.
J'ai une fille étudiante de 20 ans qui va aller manifester. J'ai une fille lycéenne de 17 ans que j'ai autorisée à manquer l'école, qui va également aller manifester ce matin. Je suis contente en fait qu'elles aient compris finalement ce constat scientifique, qu'elles essaient de le partager autour d'elles. J'ai été interpellée par de très nombreux lycéens, étudiants, ces derniers jours.
Qu'est-ce qu'ils vous
disent ? J'irai dans un lycée du 20e arrondissement de Paris, à la demande de lycéens ce matin, pour
justement,
une table ronde.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, Valérie Masson-Delmotte ?
Ils sont extrêmement préoccupés par rapport à ce monde qu'on leur prépare. Moi, je le décris d'une autre manière. Je dis que si nous, on n'agit pas maintenant à hauteur de nos possibilités pour baisser les rejets de gaz à effet de serre, inéluctablement, ils vont devoir faire face aux conséquences dans les décennies à venir, parce qu'il y a cette inertie du climat. Donc s'adapter à un climat qui va changer. On est en fait en France dans un hotspot du réchauffement climatique. On est dans une des régions...
Hotspot, c'est-à-dire un point chaud.
Une des régions où les conséquences seront importantes, par exemple sur l'intensification des vagues de chaleur, et comme tout le pourtour méditerranéen, des conséquences en termes de baisse de l'abondance des précipitations. On est une région du monde en France, et dans nos territoires d'outre-mer, on a un littoral important qui va être, comme dans toutes les régions de littoraux, exposé aux conséquences de la montée du niveau des mers. Je suis préoccupée du fait que si on n'agit pas sur dans le monde les rejets de gaz à effet de serre, il y aura des conséquences lourdes en termes d'adaptation pour cette génération d'aujourd'hui, ceux qui sont au lycée, qui sont sur dans les universités.
Mais alors le terme de funeste que j'employais tout à l'heure ou un autre terme qui serait effectivement un jugement de valeur, il est souvent invoqué pour dire voilà, si aujourd'hui on ne fait pas suffisamment peur aux gens, si on n'expose pas les risques qui sont encourus, eh bien rien ne changera jamais. Valérie Masson-Delmotte, vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Moi, j'aime pas jouer sur le caractère anxiogène ou la peur, parce que je pense que c'est aussi un des moteurs du déni. On peut pas vivre avec une espèce d'angoisse permanente quand nous n'avons pas toutes les clés en main pour agir. Moi, je pense qu'il faut être lucide et responsable. Lucide sur l'ampleur du défi et responsable en particulier par rapport aux jeunes générations d'aujourd'hui. C'est pas un défi pour la fin du 21e siècle, c'est un défi pour les décennies à venir de faire face aux conséquences croissantes du réchauffement. À 1,5 degré, on a un risque de dégradation sévère pour 70 à 90% des récifs de coraux tropicaux, à 2 degrés de réchauffement pour quasiment tous les récifs de coraux tropicaux. Quel est le monde qu'on veut laisser ? Si on n'agit pas nous maintenant, il y a beaucoup de solutions qui existent. Alors, si on veut ensuite contenir le réchauffement climatique, il faudra agir plus vite, plus fort, de manière plus coûteuse, peut-être avec des options plus risquées. Qu'est-ce que c'est le monde qu'on veut laisser aux jeunes générations d'aujourd'hui ?
Justement, lorsque l'on voit ce monde-là, Valérie Masson-Delmotte, parce que l'un des risques de faire peur, d'être anxiogène, ce serait de dire que par rapport à cela, il n'y a pas de réponse. Mais s'il y en a, s'il y a une possibilité d'inverser ce mouvement, et c'est ce que aujourd'hui vous semblez dire, puisque vous n'êtes pas fataliste, vous pensez que l'on peut encore inverser ce mouvement.
C'est d'ailleurs ce que montre l'évaluation de 6000 publications scientifiques faites dans ce rapport du GIEC. C'est pas mon opinion et c'est pas mon point de vue. C'est vraiment une somme d'expertise de toutes les disciplines scientifiques qui montre qu'on peut améliorer le bien-être de tous, vivre dignement, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre par de l'innovation sociale, par de l'innovation technologique, à condition qu'il y ait la volonté politique et citoyenne.
Valérie Masson-Delmotte, je rappelle que vous êtes coprésidente du GIEC, directrice de recherche au CEA, vous êtes paléoclimatologue. On va se retrouver dans une quinzaine de minutes pour tenter de comprendre cette fois-ci comment on peut combattre ce réchauffement climatique. Pourquoi cela a pris tant de temps ? Parce que vous avez fait railler également contre les climato-sceptiques. Alors en France aujourd'hui, ils sont en tout petit nombre, mais vous faites la moue. Donc vous considérez qu'il y a encore du climato-scepticisme. Bref, on en parlera dans une quinzaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Nous retrouvons notre invitée Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes paléoclimatologue. Vous avez été citée comme étant parmi les 10 scientifiques de l'année 2018 par la revue Nature. On a évoqué le réchauffement climatique. Frédéric Saïs, dans son billet politique, a évoqué d'autres choses, des candidatures. Mais j'aimerais avoir votre point de vue sur les politiques. Vous avez dialogué avec de nombreux politiques, j'imagine, puisque vous êtes coprésidente du GIEC. Comment réagissent-ils lorsque vous leur évoquez les réalités du réchauffement climatique ?
Dans le cadre du travail du GIEC, en fait, moi je parle de coproduction. C'est-à-dire que les rapports que nous préparons, ils répondent à des questions que les gouvernements nous posent. Nous supervisons la préparation scientifique de ces rapports. Nous recueillons en fait les commentaires des gouvernements et de leurs experts. nous en tenons compte. Et enfin, le résumé pour décideurs que nous rendons, il est relu et approuvé mot par mot par les délégués des différents pays. C'est quelque chose de délicat. Parfois, le constat scientifique dérange, mais la science, quand elle est robuste, elle s'impose, malgré la manière dont elle peut être perçue comme dérangeante par tel ou tel pays. Donc c'est un travail qui est intéressant parce que dans cet exercice-là, on entend en fait aussi les questions que les pays se posent vis-à-vis des connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre les risques climatiques et pour y faire face à la fois par l'adaptation et par toutes les options qui permettent de réduire les rejets de gaz à effet de serre. Ce qui me frappe aussi, c'est parfois un manque de curiosité de certains décideurs politiques. Un manque de curiosité vis-à-vis de ce constat scientifique. Beaucoup d'entre eux n'ont pas lu les rapports du GIEC. Pourtant, ils existent depuis 30 ans. Par exemple, l'audition que j'ai faite...
Ils ne sont pas trop compliqués à comprendre.
Non. Et l'audition que j'ai faite au Sénat le 10 octobre dernier, je vous invite à la regarder, elle est en ligne. J'ai présenté le dernier rapport du GIEC en une dizaine ou une vingtaine de minutes. Et il y a eu 2 heures de dialogue qui a montré finalement beaucoup d'indifférence, beaucoup de fatalisme de la part de personnes qui disposent de leviers d'action, qui ont une longue expérience de la vie politique.
Parce qu'a priori, 2 heures de discussion, c'est pas de l'indifférence. Alors, quels sont les termes ou les mots échangés qui vous font dire qu'il y a eu
Je pense qu'il y a une difficulté parfois à intégrer la question du changement climatique dans sa vision du monde. Je pense qu'il y a la volonté de ne pas l'intégrer dans sa manière de gérer l'affaire publique, parce que cela est difficile, parce que cela demande à penser autrement, parce que ce qui a été fait au XXe siècle ne correspond pas à ce qu'il faut faire au XXIe siècle dans le contexte de l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique.
Mais alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, Valérie Masson-Delmotte, que le changement climatique et ses conséquences, parce que évidemment, on parle de ses conséquences, c'était pour très bientôt, puisque vous parlez par exemple de 2030.
On est dedans. On est dans un climat qui change. Donc un climat qui change, c'est un climat où on observe déjà une intensification des vagues de chaleur sur tous les continents. Dans certaines régions, une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles, c'est le cas par exemple pour le sud de la France. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est le climat d'aujourd'hui. Et on voit déjà à quel point nous ne sommes pas prêts au climat d'aujourd'hui.
Pourquoi dans ces conditions les politiques ? Parce que souvent les politiques se disent qu'il ne faut pas de la politique au futur, il faut de la politique au présent, ils veulent être réélus à brève échéance. Pourquoi 2030 par exemple, ça n'est pas un horizon qui leur parle ?
Parce que je pense que beaucoup d'entre eux ne s'informent pas suffisamment sur ces questions. Et moi j'invite en fait vos auditeurs à prendre connaissance de ce rapport du GIEC. Je vous dis, c'est 26 pages, s'il y a une traduction en français qui a été faite par les citoyens sur un wiki. Et je vous invite à interpeller vos élus. Avez-vous lu ce rapport ? L'avez-vous compris ? Et ce qui est frappant, c'est que cette jeune génération qui marche dans les rues du monde entier aujourd'hui l'a lu et l'a compris. Et si les politiques ne font pas ce travail-là, il va y avoir un fossé qui va se creuser avec des jeunes générations qui ont intégré cet enjeu à la fois du changement climatique, mais aussi de l'effondrement de la biodiversité et de l'urgence à le freiner dans leur manière de faire leur choix professionnel, dans leur manière de faire leur choix aussi de vote.
Tout à l'heure, j'ai évoqué les climato-sceptiques. Je vous ai dit, il y en a de moins en moins. Vous avez fait la grimace. Alors, on a retrouvé un extrait d'une interview de Claude Allègre. Alors, aujourd'hui, bon, Claude Allègre n'est plus très fringant, mais c'est quand même un très bon exemple d'un raisonnement climato-sceptique. Et cet homme a eu une incidence sur le débat. On l'écoute, c'était en 2010 au micro de notre confrère, monsieur Apathy.
Il nous manque. Mais bien sûr, ils nous mentent pas. Ils ont surestimé leur compréhension d'un phénomène très compliqué. Vous le voyez, le 9 septembre, en grande pompe, à la télévision française, on nous a dit que l'hiver allait être un hiver indien, grâce au réchauffement climatique.
Qui a dit ça le 9 septembre ?
Monsieur Pujadas, en racontant ce qu'avait dit la météo nationale. Bon. Vous avez vu l'hiver indien. Mais l'hiver terrible. Aux États-Unis, vous avez à Washington près d'un mètre de neige, mais Pékin a eu l'hiver le plus froid depuis je ne sais pas combien. Le changement climatique...
Il y a un changement climatique.
Oui, bien sûr, comme il y en a eu d'ailleurs.
Et l'homme en est-il la cause ?
Mais on n'en sait rien, tenez. Donc, je pense qu'on n'a plus d'évidence, parce que les données d'observation qui appuyaient cela se sont révélées fausses.
Valérie Masson-Delmotte, on vient d'entendre la voix de Claude Allègre. Vous aviez accepté à l'époque de débattre avec lui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors par exemple, ce discours qui est un discours café du commerce, il fait chaud, alors on nous dit que il faisait encore plus chaud avant. Bref, quelles peuvent être les conséquences de ce type d'assertion ?
J'avais mené à l'époque une lettre portée par 600 scientifiques du climat français qui a conduit à un débat approfondi à l'Académie des sciences en 2010. Et ce débat a conclu, bien sûr, selon le constat scientifique, de l'influence prépondérante de l'homme sur les tendances climatiques des dernières décennies. J'ai également accepté de participer à un débat, à l'époque c'était une émission de Guillaume Durand, avec Claude Allègre, qui en fait a cette habileté de jongler entre le point de vue politique et certains éléments patchwork scientifiques, ce qui rend le dialogue particulièrement difficile.
C'est-à-dire par exemple, comment jonglait-il? Et surtout, quand on vous dit par exemple, on nous dit qu'il y a un réchauffement climatique, mais cet hiver a été très rude, qu'est-ce que vous répondez?
Alors le climat en fait c'est l'ensemble de la météo à la surface de la Terre intégrée sur le temps long. Donc c'est les moyennes mais leur variabilité sur typiquement une quinzaine, une vingtaine d'années. Et donc dans un climat qui change, on va avoir certaines situations météo qui vont changer statistiquement. Donc le réchauffement du climat il s'accompagne d'une augmentation des extrêmes chauds, en moyenne d'une diminution des extrêmes froids, ce qui n'empêche pas de temps en temps ici ou là d'avoir des vagues de froid ou des étés pourris. Laissez-moi juste expliquer en fait en deux mots ce que c'est le changement climatique. Nous, on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On piège de la chaleur qui sinon partirait sous forme de rayonnement vers l'espace. D'accord ? Donc ça entraîne un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Donc ça entraîne un réchauffement des basses couches de l'atmosphère, l'air au-dessus des continents, un réchauffement à la surface des océans et en profondeur dans les océans. C'est ce qui cause en fait le fait que ce réchauffement du climat est irréversible. Parce que les océans jouent le rôle d'accumulateur. En absorbant la plupart de la chaleur supplémentaire, plus de 90%, ils nous aident. Ils amortissent le réchauffement en surface, mais ils le rendent irréversible. Et puis dans un climat qui se réchauffe, l'atmosphère par exemple peut contenir plus d'humidité. 7% de plus par degré de réchauffement. Donc dans les régions polaires, c'est plus froid, plus humide. La même tempête aujourd'hui n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques qu'il y a 50 ans. Parce que comme les océans sont plus chauds, la même tempête peut transporter plus d'humidité. Et c'est pour ça qu'on observe, dans certaines régions, une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles. C'est le cas dans le sud de la France. C'est aussi le cas pour certains ouragans. On voit une augmentation de l'intensité de leurs pluies dans un climat qui se réchauffe. Les océans qui se réchauffent, les glaciers qui fondent, les calottes qui s'écoulent plus vite, ça conduit à la montée du niveau des mers. Un climat qui se réchauffe, c'est plus d'extrêmes chauds. C'est une des conséquences du réchauffement. On a également des changements dans la circulation des vents, ce qui conduit à une baisse des précipitations dans les régions de climat méditerranéen. Tout ça, en fait, fait partie de ce changement climatique. Et prendre un petit morceau dans un coin, plutôt que cette image d'ensemble, c'est vraiment tromper l'opinion publique.
Alors donc, on a par exemple dans les climats méditerranéens, plus de sécheresse paradoxalement, et plus de pluies très fortes lorsque celles-ci surviennent, c'est ça ?
Dans les régions de climat méditerranéen, on s'attend en fait à une baisse des précipitations. On l'observe déjà, on s'attend à ce que ça s'intensifie. C'est autour de la Méditerranée un des endroits où le signal est plus clair. Pour chaque demi-degré de réchauffement, on a quasiment un doublement du risque de sécheresse. Et en même temps, dans les régions de climat méditerranéen, on s'attend à un renforcement de l'intensité des pluies torrentielles. Donc des difficultés pour la gestion à la fois de la pénurie d'eau et de l'excès d'eau très ponctuellement. Ça fait partie, bien sûr, des conséquences du réchauffement climatique. Et c'est là où la science, elle est utile. Parce qu'en fait, par ce travail qui est fait pour explorer les évolutions futures, c'est une information que la société peut s'approprier pour l'intégrer dans la gestion de l'eau, dans le dimensionnement des ouvrages de protection. C'est pour ça que la science du climat, c'est une science qui est au service de la société. Parce que ces connaissances qu'on produit, c'est pas uniquement théorique pour comprendre les choses. C'est aussi pour permettre de gérer les risques, de créer une culture de la gestion de risques. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement engagée pour qu'il y ait un renforcement de l'éducation au changement climatique, de l'enseignement du changement climatique au collège, à l'école, au lycée et à l'université. Et la France aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ses engagements internationaux pour renforcer cette éducation.
On termine sur les conséquences concrètes sur le climat, et là en l'occurrence sur le climat français. Lorsqu'on s'éloigne du climat méditerranéen, lorsqu'on va vers le nord, qu'est-ce qui se passe, Valérie Masson-Delmotte?
Le changement climatique pour la France, c'est un réchauffement qui est plus important que la moyenne planétaire, comme sur tous les continents. Il est déjà observé de l'ordre de 1,5 degré. On s'attend à son intensification. Donc c'est un réchauffement qui est particulièrement marqué en hiver dans le nord-est de la France et très marqué en été plutôt dans le sud-ouest. Donc des différences régionales. C'est également donc une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles que j'ai déjà mentionnée. Des enjeux sur tout le littoral par rapport à la montée du niveau des mers et la gestion des risques de submersion pour le littoral. Donc ce sont des enjeux qui sont intimement liés à la question de l'eau. La question de l'adaptation du secteur agricole, on a vu les conséquences l'année dernière d'une sécheresse très prononcée. On a en fait sur certaines années récentes, du fait de vagues de chaleur à des moments particuliers ou d'épisodes de pluie intense à des moments particuliers, on a observé des chutes de rendement de grandes céréales, des chutes de rendement pour les maraîchers. Donc on voit que la question de l'adaptation au changement climatique, c'est un enjeu majeur pour un secteur important pour la France qui est le secteur agricole. On a également donc des conséquences pour les villes. Donc les villes, en fait, elles ont des effets amplificateurs sur les vagues de chaleur par l'imperméabilisation des sols, par l'artificialisation. Et donc il y a des enjeux pour améliorer le confort thermique dans les villes en été, pour réduire les effets d'îlots de chaleur. Et puis le changement climatique, il peut s'accompagner de pics de pollution par certaines situations météorologiques de blocage qui permettent l'accumulation de polluants autour des villes. Et donc il y a des enjeux communs extrêmement importants entre agir sur la cause des rejets de gaz à effet de serre, la cause d'émissions de particules polluantes, c'est la même chose, où on a des bénéfices également à agir en matière de santé publique.
Et sur les tempêtes, parce que vous parlez des agriculteurs, alors je sais que les agriculteurs drômois, par exemple, disent qu'il y a de plus en plus d'épisodes venteux très forts. Est-ce que vous comprenez d'où ils viennent, Valérie Masson-Delmotte ?
Alors, pour l'instant, les travaux qui sont faits, en particulier en France, par Météo France, pour travailler sur le temps long et donc les statistiques de tempêtes, ne montrent pas nécessairement une tendance sur plusieurs décennies ou à l'échelle du siècle sur ce volet-là. Il y a une variabilité, en fait, d'une décennie à l'autre qui peut être importante. Il n'y a pas de conclusion claire pour l'évolution des tempêtes sur le territoire métropolitain.
Sans qu'on puisse donc faire de corrélation nécessaire entre l'évolution du climat, en tout cas le réchauffement climatique et le fait qu'il y ait plus ou moins de tempêtes, il y a aussi un discours qui n'est pas climato-sceptique, mais qui désormais exprime une certaine forme de ras-le-bol par rapport à ce qui est qualifié comme une religion apocalyptique. Alors il y a par exemple une interview d'Elisabeth Lévy, contre la religion du climat et pour la raison, avec l'idée qu'il y aurait une forme de culte avec des prêcheurs, je cite Elisabeth Lévy, les irritants enfants de cœur à couettes et grands yeux confiants qui psalmodie en permanence le même message, la fin du monde approche et c'est de votre faute, et donc qui inciterait à la pénitence. Votre réaction, Valérie Masson-Delmotte?
On retrouve en fait dans l'éditorial d'Elisabeth Lévy tous les poncifs climato-sceptiques. Cela étant, moi il me semble
Alors, ce
que
dont
ce qui
elle
est frappant
se défend sur le climato-scepticisme. Dites-moi.
Il faut lui poser la question, est-ce qu'elle a lu le rapport du GIEC? Donc il y a un constat scientifique précis, informé par l'analyse de 6000 publications qui a bénéficié de la relecture de 1000 spécialistes dans le monde entier avec 42 000 commentaires. Il faut lui poser la question si elle l'a lu et s'il l'a compris. En ce qui concerne donc le changement climatique, moi ce qui me frappe, c'est plutôt une forme de fatalisme ou d'indifférence dans l'opinion publique. Et l'enjeu, c'est justement de surmonter cette indifférence et ce fatalisme, parce qu'il existe beaucoup de solutions possibles pour s'adapter à un climat qui change, à condition de prendre au sérieux l'information scientifique qui est disponible, y compris ses limites. Et également, il y a beaucoup de solutions qui permettent d'améliorer, par exemple, la santé publique en agissant pour le climat, l'amélioration de la qualité de l'air, en agissant, par exemple, sur le mode d'alimentation avec des bénéfices en termes de santé publique et en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce que recommandent les médecins en termes d'alimentation saine, c'est la même chose qui permet de réduire les rejets de gaz à effet de serre.
Vous parlez des limites de la connaissance scientifique en matière de réchauffement climatique. Justement, qu'est-ce qu'on ignore encore? Sur quoi travaillez-vous pour faire reculer l'ignorance, Valérie Masson-Delmotte?
On travaille sur tous les aspects. On travaille à mieux comprendre l'évolution passée, présente et future du climat. On travaille à avoir une information climatique régionale qui soit la plus fine possible. On travaille à combiner l'information sur l'influence de l'homme sur le climat avec la variabilité spontanée du climat qui s'y superpose. On travaille par exemple à mieux pouvoir anticiper les évolutions à court terme à l'échelle de la décennie. C'est un enjeu majeur pour que la société puisse tirer parti de ses connaissances à court terme, en plus des connaissances à long terme. On travaille également pour mieux situer dans chaque contexte de chaque société, de chaque secteur d'activité, quelles sont les options pour l'adaptation. On travaille également à mieux cerner quelles sont les nouvelles options technologiques, quelles sont les nouvelles formes d'innovation sociale dans tous les secteurs d'activité qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un foisonnement de connaissances qui est sidérant. Juste un chiffre, chaque année dans la littérature scientifique 20 000 publications avec le mot-clé changement climatique. C'est impressionnant de voir ce foisonnement de connaissances. Et il y a un besoin d'avoir des émissions, des repères, des choses qui permettent de le partager avec l'ensemble de la société, parce qu'il y a cette aspiration justement à s'approprier ces connaissances pour les mettre en œuvre et pour construire en fait un modèle de développement qui permette de limiter l'ampleur du réchauffement climatique et d'améliorer la dignité et le bien-être de tous.
Alors, il reste quand même des controverses en science, et notamment une controverse qui est autour d'une certaine crosse de hockey. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, Valérie Masson-Delmotte. Qu'est-ce que c'est qu'une crosse de hockey ?
Alors, ça fait référence à un travail pionnier qui a été fait par un scientifique américain pour estimer les variations de température sur les continents de l'hémisphère nord depuis, disons, l'an 1000. Et donc, la première estimation qui avait été faite, elle montrait une évolution avec une diminution lente de température depuis le Moyen-Âge jusque, disons, au 19e siècle. Et puis, cette rupture avec le réchauffement actuel, plus une barre d'erreur relativement importante. Cette figure, elle faisait partie, je crois, du troisième rapport du GIEC, parce qu'elle était assez frappante en montrant cette rupture. Elle a suscité des réactions multiples. L'auteur de ce travail a fait l'objet d'attaques vraiment très fortes, y compris sur sa légitimité scientifique. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu beaucoup d'autres travaux indépendants, d'autres chercheurs qui ont confirmé que le réchauffement actuel des dernières décennies sort de la gamme depuis maintenant à peu près 1500 ans. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur la reconstitution de températures, non pas uniquement sur les continents mais aussi sur les océans, région par région, dans le cadre d'un programme international qui s'appelle Past Global Changes. Donc il faut imaginer en fait tous ces scientifiques qui font cette espèce de travail de détective pour aller chercher les indices des variations passées du climat, historiques ou dans les archives naturelles, les convertir en estimation des changements passés de température avec un ensemble de plusieurs estimations différentes qui confirment finalement l'estimation, la barre d'erreur qui avait été publiée au début des années 2000.
8h40 sur France Culture. On continue à évoquer le réchauffement climatique en votre compagnie, Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes paléoclimatologue et coprésidente du GIEC. Maintenant, on fait quoi ? Donc, concrètement, puisque vous luttez contre le fatalisme, vous estimez qu'il n'y a pas de prise de conscience des responsables politiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce réchauffement climatique s'atténue ? Bref, qu'il n'y ait pas les conséquences que l'on observe aujourd'hui.
Arrêtez de penser en silo. Il n'y a pas d'un côté le climat, de l'autre côté le développement, de l'autre côté l'effondrement de la biodiversité. Il faut arriver à se dire quel est le futur que l'on souhaite se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire identifier les problèmes aujourd'hui, identifier des options qui permettent de maximiser les bénéfices dans plusieurs dimensions. Améliorer la santé publique et agir par rapport au climat. Voilà, donc ça doit être pour moi les principes fondateurs pour construire en fait une vision de la société vers laquelle on voudrait aller. C'est d'ailleurs ma frustration par rapport à la formulation du grand débat national, où finalement on a cloisonné les choses avec la question d'un côté de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, la question des enjeux environnementaux de l'autre, et pas tellement la question de vers quoi on veut se projeter dans 10, 20, 30 ans, quel est le genre de société, quel est le genre de mode de vie vers lequel on se projette.
Et alors, justement, s'il s'agit de changer son mode de vie, puisque évidemment tout passera par là, qu'est-ce que l'on pourrait préconiser ? Alors, ou bien aux responsables politiques, ou bien donc à tous les auditeurs, aux citoyens ?
Alors, moi, je ne suis pas là pour dire à la société ce qu'elle doit faire. Je suis là comme chercheuse qui produit des connaissances, qui est engagée pour partager des connaissances qui ne sont pas que les miennes, mais qui sont celles robustes, exhaustives, rigoureuses, produites par l'ensemble de la communauté scientifique. Ces connaissances, elles sont à la disposition de la société. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait, par exemple, des assemblées citoyennes, comme ça a été fait en Irlande récemment, qui s'approprient cet enjeu-là, qui réfléchissent à la question du développement que l'on souhaite pour permettre à tous de vivre dignement, tout en agissant par rapport au changement climatique. Et dans toutes les situations où on a eu un débat démocratique approfondi, par exemple avec des assemblées citoyennes qui donnent la parole à la jeunesse plus que de les instances parlementaire, on voit qu'il y a une aspiration à la transformation, aux transitions beaucoup plus fortes. La question du changement climatique, elle pose la question de la transition de grands systèmes. Le système énergétique mondial, pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles, les systèmes industriels pour aller vers une économie circulaire, moins consommatrice en ressources non renouvelables, la question de la transition des grands systèmes urbains, pour avoir des villes qui sont performantes, efficaces sur le bâtiment, sur le transport, qui permettent justement d'éviter de rejeter des gaz à effet de serre, avec beaucoup d'actions possibles en termes d'efficacité énergétique, de mobilité. Il y a également la question de la transition de la gestion des terres, des systèmes agricoles, forestiers et alimentaires, pour aller vers des systèmes alimentaires sobres en carbone et non pas source d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a la question de la transition des grandes infrastructures et il y a la question des modes de vie. Dans notre rapport, ce qu'on montre, c'est qu'il y a énormément d'options d'action. Certaines options, elles présentent des risques pour d'autres aspects
exemple,
du développement durable.
Parce que justement,
par exemple,
vous
si vous voulez à grande échelle recourir à l'énergie de la biomasse, vous allez exercer une pression supplémentaire sur les terres. Vous pouvez
c'est quoi
mettre
c'est par exemple l'éthanol.
Ça peut être l'huile de palme, ça peut être les agrocarburants, ça peut être remplacer des énergies fossiles par l'énergie de la biomasse à grande échelle. Là, on se rend bien compte que ce serait une pression supplémentaire sur l'usage des terres, et si c'est pas encadré et surveillé de manière très stricte, ça pourrait conduire à un effondrement de la biodiversité dans les dernières zones de forêt primaire, typiquement. Donc, on a
la
également des options.
Également,
on a également
Valérie
des options
Masson
pour. On a des options qui sont importantes liées à la fiscalité. Comment agir sur la fiscalité de sorte à rendre compétitives les options bas carbone et donner un signal clair par rapport à l'utilisation des énergies fossiles. Et à côté de ça, on a la question de la précarité énergétique. Donc il y a des questions qui sont importantes. Comment on permet aux gens de sortir de la précarité énergétique tout en les aidant et les accompagnant de sorte à ce qu'ils dépensent moins en termes de chauffage, en termes de transport. Donc ce sont les questions qui sont posées et qui sont des questions importantes.
L'énergie nucléaire, Valérie Masson-Delmotte.
Alors moi, je travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la branche de la recherche fondamentale. Je ne pense pas que je sois légitime pour m'exprimer sur la place de l'énergie nucléaire. Dans le rapport du GIEC, on identifie en fait, dans les transitions qui permettent de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré, les différentes options qui permettent d'avoir des systèmes énergétiques sobres en carbone. La partie
parce que
l'énergie nucléaire est une petite partie de cette solution-là. C'est un choix que la France a fait il y a plusieurs décennies, d'avoir une production majeure de son électricité nucléaire. Ça n'a pas été fait pour agir par rapport au changement climatique. Dans le monde, ce qu'on estime, c'est que la rupture qui va venir, c'est celle des énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne offshore, l'énergie photovoltaïque, où on a en fait des progrès majeurs sur les coûts, des ruptures technologiques non-stop, des capacités de stockage sur les batteries. Et donc aujourd'hui, dans le monde, ce sont ces ruptures-là qui sont en train d'être déployées.
Et les énergies fossiles, puisque ce sont quand même elles que vous incriminez, Valérie Masson-Delmotte, enfin vous n'êtes pas la seule hein, à les incriminer, il y a quand même malgré tout là le premier point, le premier levier sur lequel on peut agir pour tenter de contrer le réchauffement climatique.
Bien sûr, il y a des enjeux majeurs, il y a des enjeux sur certaines infrastructures industrielles à capter, stocker, réutiliser le dioxyde de carbone plutôt que de le laisser partir dans l'atmosphère.
Quelle forme de stockage ?
Il y a plein d'options différentes. Ensuite, il y a également...
Aujourd'hui, elles sont très peu utilisées.
Elles sont peu utilisées parce qu'elles sont plus chères. Et donc, il faut qu'il y ait un signal prix à un moment donné, puisque aujourd'hui, on ne paye pas la pollution qu'on met dans l'atmosphère. Sur les bâtiments, il y a tout un ensemble d'enjeux d'efficacité des bâtiments pour éviter d'avoir besoin de recourir à du chauffage. Pour les transports, il y a un potentiel énorme, par exemple, d'électrification des transports pour sortir de cette dépendance que l'on a au pétrole et ses fluctuations sur le prix des marchés internationaux.
Parmi les questions posées à nos modes de vie, l'élevage.
Alors la question de l'alimentation, c'est une question importante. Ce qu'on montre dans notre évaluation, c'est que parmi les facteurs de transition qui permettent de stabiliser l'évolution du climat, il y a des choix de régimes alimentaires sobres en carbone qui sont importants. Donc la part en fait de protéines animales dans l'alimentation. Et en fait, l'analyse qui est faite en termes d'émissions de gaz à effet de serre, elle recoupe... très clairement ce qui a été fait par les médecins, par exemple la publication récente du Lancet, qui identifie ce que c'est un régime alimentaire sain, c'est un régime alimentaire avec peu de protéines animales et qui permet effectivement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a différents types d'élevage, on a des élevages intensifs, on a des élevages en pâturage qui permettent de stocker du carbone dans les sols. Donc on ne peut pas apporter une réponse unique, mais certaines options sont meilleures que d'autres de ce point de vue-là.
Tout ça est très politique. Tout ça est très politique parce que finalement, ce rapport du GIEC est un rapport fait par des scientifiques, mais vous appelez, avec vos convictions et vos preuves de scientifiques, à un vrai changement dans nos modes de vie.
En fait, chacun des secteurs de nos activités contribue aujourd'hui à des rejets de gaz à effet de serre. Donc chacun des secteurs d'activité, chacun de nos choix fait partie des solutions. Dans notre rapport, en fait, ce qu'on résume, c'est chaque demi-degré compte en termes de monde qu'on va laisser aux générations futures. Chaque année compte par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle quand même, c'est 42 milliards de tonnes qu'on déverse dans l'atmosphère de CO2 et chaque choix compte.
Valérie Masson-Delmotte.